Bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Arjuna Andrade, Cédric Fuentes, Louis Drillon, Léa Sabourin et Guillaume Ménard. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Anthony Thomas.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Nous achevons notre série consacrée aux penseurs du libéralisme par un débat. Cette semaine, nous avons voyagé à travers la galaxie des courants libéraux aux côtés des grands théoriciens du libre marché, Adam Smith, Friedrich Hayek et Milton Friedman. Aujourd'hui, c'est le néolibéralisme, objet économique non identifié, qui va nous intéresser. Le néolibéralisme est souvent associé à la révolution conservatrice des années 80, incarnée entre autres par Margaret Thatcher et Ronald Reagan, une vision qui dissimule les nombreuses fractures idéologiques du mouvement entre les partisans d'un rejet total de l'État et les défenseurs d'un certain interventionnisme. Il est 14h, passé de 1 minute sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Nous allons retracer la généalogie du néolibéralisme en compagnie de Gaspard Koenig, enseignant à Sciences Po, président du think tank Génération Libre et auteur des Aventuriers de la Liberté publié chez Plon, en compagnie également de Gilles Raveau, maître de conférence en économie à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8 Saint-Denis et auteur de Économie, on n'a pas tous été essayé, publié au Seuil, et d'Alain Laurent, philosophe, auteur de L'autre individualisme, une anthologie publiée aux Belles Lettres. En fin d'émission, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera des nouvelles de l'écho.
Il y a eu dans les années 70 un début de montée dans l'espace public et plus généralement de ce mot néolibéralisme, notamment après le coup d'État de Pinochet, et sur l'expérience de ce qu'on a appelé les Chicago Boys autour de Milton Friedman au Chili, des expériences très libérales et des expériences dont beaucoup de commentateurs ont considéré a posteriori qu'elles anticipaient en quelque sorte les révolutions reaganiennes et thatcheriennes. Mais disons que c'est un premier moment, et dans un deuxième moment, beaucoup plus fortement, il y a eu dans les années 80, notamment après la chute du communisme, notamment autour du mouvement du Chiapas, autour du mouvement altermondialiste, le début d'un concept qui était censé en quelque sorte désigner le mal de notre temps, mais c'est pas seulement les altermondialistes, puisqu'on citait même le pape Jean-Paul II, à savoir la critique, disons, d'une dérégulation financière et économique mondiale, l'avènement d'un paradigme à la fois utilitariste, individualiste, anti-étatiste, free market, et finalement en faveur d'un libre-échange généralisé.
Gaspard Koenig, Gilles Raveau et Alain Laurent, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on vient d'entendre le philosophe Serge Audier, qui était l'invité de la suite dans les idées sur France Culture il y a quelques années. Comme on a pu l'entendre, l'entreprise de définition du néolibéralisme, c'est une tâche particulièrement ardue, Gaspard Koenig.
Oui, d'abord, aucun auteur ne s'est revendiqué néolibéral. En fait, ceux qui se sont revendiqués néolibéral, c'était plutôt les participants au colloque Lippmann de la fin des années 30 qui voulaient réinventer le libéralisme après la crise de 1929 et qui, du coup, je crois, ont essaimé le mot néolibéralisme. Et donc, c'est pas le libéralisme en soi est une doctrine qui est extrêmement fluide, qui est assez peu structurée, qui a énormément de courants différents. Même le mot libéral est apparu après les premiers libéraux. De toute façon, on est d'emblée dans la confusion et on y reste. Ensuite, pour essayer de structurer... Et moi, j'ai longtemps pensé que néolibéralisme, c'était un peu comme ultralibéral, c'est-à-dire c'était un mot qu'en fait, on vous jetait à la figure dans un sens purement négatif, de critique, mais qui ne reflétait pas véritablement de réalité théorique.
Comme le dit Serge Audier, c'est une façon de désigner la dérégulation financière, les méfaits de la mondialisation.
Il y a un paquet de choses qui ne sont pas forcément liées à des mouvements de pensée très cohérents. Maintenant, j'étais quand même assez convaincu par l'analyse de Foucault dans La naissance de la biopolitique, et lui, il définit le libéralisme comme la volonté de faire de l'individu l'entreprise de lui-même. Et au fond, d'abolir la distinction entre capital et travail en disant l'individu est à lui-même son propre capital, son travail est considéré comme une sorte de retour sur investissement sur lui-même. Et c'est pas un hasard si Foucault cite comme chantre du néolibéralisme Gary Becker, qui est le théoricien du capital humain. Et effectivement, si on regarde les politiques de ces années-là à travers ce prisme, l'entreprise de soi, je trouve que ça fait sens. On comprend aussi que c'est un projet qui était un projet qui avait un vrai idéal et un idéal humaniste. Et maintenant, je le dis d'emblée, on aura l'occasion d'en reparler, je pense qu'il faut aussi que les libéraux, exactement comme à la fin des années 30 lors du colloque Lippmann, reconnaissent l'échec à la fois théorique et pratique du néolibéralisme et continue à faire évoluer cette doctrine.
Alors on va entendre Alain Laurent sur cette première définition que l'on pourrait donner du néolibéralisme. C'est un terme qui recouvre des mouvements trop différents pour être regroupés autour de ce mot.
Pas forcément, mais donc je ne peux que m'associer à ce qui vient d'être dit, hein, faire la distinction tout de même entre le néolibéralisme 1938 du colloque Walter Lippmann, qui entendait réviser d'une certaine manière une certaine conception du libéralisme à la fin du 19e siècle, et puis ce qu'on a appelé néolibéralisme à partir, en effet, des années 1970-80. Et même à l'intérieur de cette période-là, il y a certainement divers courants, diverses versions à distinguer. Mais il y a quelque chose qui me paraît également important, c'est de s'interroger sur le terme néo. Pourquoi néo ? Est-ce que c'est un nouveau type de libéralisme qui émerge à ce moment-là ? Du point de vue, d'ailleurs, aussi bien de pratiquement tous les participants au colloque Walter Lippmann, que ensuite, ce qu'on a baptisé néolibéraux dans les années 70-80, il n'en est rien. Ce qu'ils entendaient faire, c'est que parce qu'il y avait eu une période d'effacement du libéralisme de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 1930-40, ils entendaient le réactualiser, le réactiver, le rénover d'une certaine manière pour certains d'entre eux, mais en s'appuyant tout de même sur les fondamentaux du libéralisme classique, à savoir la liberté de concurrence, la liberté d'entreprendre, la liberté du travail, etc.
Vous parlez d'un effacement du libéralisme à partir de la fin du 19e siècle jusque dans les années 30. Est-ce qu'on ne peut pas plutôt parler d'un nouveau libéralisme ou d'un libéralisme social qui va être ensuite développé par Keynes, Gilles Raveau ? Parce que Keynes se disait lui-même libéral.
Oui. Mais au sens américain.
Non, Keynes, ça c'est très intéressant. Donc John Maynard Keynes, donc cet économiste britannique qui écrit dans les années ses œuvres principales dans les années 30, est très clairement libéral. Il a écrit un texte qui s'appelle « Pourquoi je suis libéral ».
Précisons, donc libéral au sens américain, ça veut dire
non,
une sensibilité.
Non.
Mais précisons simplement pour les auditeurs, libéral, c'est une sensibilité plutôt à gauche si on l'entend au sens américain, alors qu'en France, ça se rapproche de
courant plutôt. Non, excusez-moi, c'est faux ce que vous dites. Keynes est anglais, il n'est pas américain. Il est libéral au sens français du terme. C'est un économiste qui est classique, qui est l'élève d'Alfred Marshall, qui, dans ses premiers travaux d'économie, défend la libre concurrence, le libre marché, et dit ce que dit la tradition dominante en économie. Keynes est un économiste libéral au sens français du terme.
Et alors, est-ce qu'il introduit ce nouveau libéralisme ?
Ce qui se passe, c'est que Keynes observe la réalité, ce que ne font pas beaucoup d'économistes, et Keynes fait une deuxième chose que peu de nous avons fait dans notre vie, il change d'avis. C'est-à-dire que quand il voit les ravages de la crise de 1929, qu'est-ce que comprend Keynes ? Il comprend que ce qui est en péril, c'est la démocratie. Et qu'il faut changer de système économique pour sauver la démocratie. Et quand on lit Keynes, ce que évidemment personne ne fait, on voit que la théorie générale n'est pas une théorie de l'État. Il y a très peu de pages sur la politique économique. La théorie de Keynes est une théorie de l'entrepreneur. Et Keynes nous dit, les gens qui décident du nombre d'emplois dans une économie, ce sont les entrepreneurs. Soit ils décident d'embaucher, et c'est très bien, soit ils n'embauchent pas, et dans ce cas-là, l'État doit intervenir par des grands travaux.
Alors vous avez parlé, Alain Laurent, de ce colloque Walter Lippmann. C'est effectivement un moment essentiel pour bien comprendre notre sujet aujourd'hui. Alors Walter Lippmann, c'est cet influent journaliste américain et ce colloque a donc lieu à Paris en 1938. Comment est-ce que la doctrine libérale évolue à partir de ce colloque, Gaspard Koenig ?
Exemple, je ne connais pas ça très en détail, mais j'ai lu ce que dit d'ailleurs Serge Audier sur le sujet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a dans ce colloque à la fois des gens qui vont fonder l'ordo-libéralisme allemand tel que Röpke, des Français qui seront d'ailleurs participeront à l'élaboration de la construction européenne comme Jacques Rueff, je crois que Aron était également présent. Et puis vous avez des gens qui ensuite vont partir côté américain et vont fonder l'école de Chicago, à commencer par Hayek, le jeune Hayek, qui est dans ce colloque. Et donc effectivement, il y a une lecture du colloque Lippmann, notamment la lecture qu'en fait Chomsky, qui consiste à dire, regardez C'est une sorte de grand complot mondial. Tous ces gens se sont assemblés à la fin des années 30. Et puis après, ça vous a donné aux États-Unis le Mont Pèlerin, en Europe, la construction européenne, en Allemagne, l'ordolibéralisme. Et tout ça fait sens, tout ça est extrêmement cohérent. En fait, ce qui est intéressant, c'est que là-dedans, il y a des courants extrêmement divergents. Que d'ailleurs, les ordolibéraux ont fait scission par rapport au Mont Pèlerin dans les années 60, qui était très peu influent. Et que donc, ça c'est des cultures quand même très différentes entre ce qu'est le droit de la concurrence aujourd'hui en Europe, qui vient, je pense, tout droit du colloque Klimpan, parce qu'une des principales réformes intellectuelles, c'est de dire il faut de l'antitrust, c'est-à-dire que la concurrence, et ça, je pense que c'est assez fondamental pour comprendre la construction européenne, c'était de dire la concurrence, ça se construit. Et deuxièmement, comme le dit Jacques Rueff, justement, à propos de l'Europe, la liberté n'est pas un donné. La liberté est une construction sociale, et donc il y a des institutions qui vont définir, encadrer, et en fait faire émerger cette liberté. Et donc les hommes ne sont pas nés libres, c'est quelque chose qui se construit. Et ça, je trouve que c'est un des apports théoriques les plus importants de cette période.
Ce que l'on comprend bien, avec ce que vous dites à Gaspard, c'est que finalement, ce qui apparaît au moment de ce colloque, c'est deux formes de libéralisme différentes. L'un qui est peut-être du côté des ordolibéraux et peut-être plus proche d'un État qui serait chargé de surveiller l'ordre de marché, et l'autre qui donnera effectivement naissance plus tard à cette société du Mont Pèlerin, et qui est plus du côté d'un libéralisme qu'on peut dire plus radical. Alain Laurent.
On peut dire ça, en effet. Ce qu'il faut savoir tout de même, c'est que lorsque s'est tenu le colloque Walter Lippmann, il y a eu des affrontements, parfois assez durs, hein, entre les participants, entre les deux courants, ou trois courants dont nous venons de parler. Et ensuite, c'est vrai, ils ont essaimé dans des directions assez différentes. Ce qui est intéressant, en effet, c'est que c'est à ce moment-là que s'élabore l'ordo-libéralisme. Et comme vous l'avez d'ailleurs dit assez exactement, du point de vue ordo-libéral, il y a une intervention, mais c'est une intervention latérale de l'État. Certainement pas, c'est pas du tout de l'interventionnisme direct, ce qui leur paraît complètement autodestructeur.
Il s'agit en grande partie de surveiller la concurrence, d'encadrer la concurrence.
Et de poser un cadre protecteur également de la concurrence, parce que les ordolibéraux ne sont pas fous, ils savent très bien qu'un certain nombre d'entrepreneurs ou de capitalistes vont tout faire pour frauder et essayer de ne pas respecter la concurrence par des ententes, des trusts, etc.
Et avec cette idée que ces ententes ou ces trusts finiraient par menacer la démocratie. Il y a cette proximité entre libéralisme politique et libéralisme économique.
Voilà. Alors, il y a beaucoup plus d'optimisme, voire peut-être un peu de... voire beaucoup de naïveté de la part des autres, en particulier de Hayek, de Mises, de Friedman, qui, eux, pensent en effet qu'il peut y avoir certaines vertus à l'autorégulation.
Gilles Raveau, quel regard portez-vous sur ces deux conceptions du libéralisme qui apparaissent au moment du colloque?
Je pense qu'il y a une... C'est ce qu'a dit Gaspard. Effectivement, tout ça, c'est d'une richesse incroyable, le libéralisme. C'est passionnant de lire les auteurs libéraux, que ce soit Hayek, que ce soit Friedman, que ce soit Smith, qu'il faudrait absolument lire aussi. Dans les idées que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est, je pense qu'une des caractéristiques du néolibéralisme, c'est de s'appuyer sur l'État. C'est-à-dire que les politiques néolibérales ont requis une intervention très puissante de l'État. C'était le cas de Margaret Thatcher, par exemple, lorsqu'elle brise la grève des mineurs qui dure un an entre 1984 et 1985 au Royaume-Uni. Elle fait venir les mineurs non grévistes en fourgon blindé, protégés par l'armée. Donc, sans la puissance publique, elle ne peut pas mener sa politique de casse contre les syndicats. Et Thatcher a dit, lorsque j'ai gagné les élections, j'ai vaincu le socialisme démocratique et maintenant je veux briser ce qu'elle appelait le socialisme non démocratique, c'est-à-dire les syndicats. Et ce qui est chouette pour nos auditeurs, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec Emmanuel Macron, hein, qui aussi a une politique de destruction des syndicats et du monde du travail.
Alors avant d'en venir à l'actualité, comment les idées de justement Friedrich Hayek, mais aussi Milton Friedman se sont-elles imposées? On va écouter l'économiste Jacques Garello.
En fait, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, on avait prévu un grand rendez-vous à Paris sur le thème de la liberté. Et puis, la guerre a fait que ce rendez-vous ne s'est pas tenu. Alors, dès que la guerre était terminée, bien sûr, on a repris le dossier là où on l'avait laissé. C'est-à-dire comment la liberté économique, politique, peut être le meilleur garant contre... l'étatisme, la perte de liberté des individus et finalement la guerre. Et pratiquement tous les grands penseurs libéraux se retrouvent à ce moment-là. Alors voilà, l'élan est donné. À l'époque, il y a beaucoup de sceptiques. Par exemple, le très célèbre Joseph Schumpeter dit « Oh, quelques vieux économistes se sont réunis à Vevey, en Suisse, et ont créé une société. » Mais il laisse entendre qu'il n'y a aucun avenir pour cette société du Mont-Pèlerin.
Voilà l'économiste Jacques Garello dans la Fabrique de l'Histoire sur France Culture. Quelles sont les idées qui s'imposent lors de la création de la société du Mont-Pèlerin en 1947? Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots le contexte de cette réunion et nous dire un petit peu quels sont les économistes qui sont alors à la manœuvre, Gaspard Koenig?
La société du Mont-Pèlerin, elle est d'abord incarnée par Hayek, mais encore, comme je disais au début, elle comprenait beaucoup de gens, y compris des ordres libéraux, puisqu'elle a été fondée en Europe, hein, on vient de l'entendre, en Suisse. Et c'est seulement dans les années 60 qu'elle s'est déplacée vers les États-Unis et qu'elle s'est identifiée véritablement à l'école de Chicago, qu'elle s'est dotée de Milton Friedman et surtout, elle c'était une société quand même assez marginale, comme d'ailleurs le laisse entendre Schumpeter, en effet. Et c'est dans les années 70 que Hayek et Friedman reçoivent tous les deux leur prix Nobel, si je ne me trompe pas. Et c'est là que véritablement ça commence à devenir un événement politique mondial. Et on se rappelle que Thatcher, dont on parlait, quand on lui demandait « À quoi croyez-vous ?», elle sortait de son sac à main, célèbre sac à main, le livre de Hayek, « Droit, législation et liberté ».
Donc c'est à partir de ce moment-là que ce sont les idées libérales peut-être les plus radicales qui s'impose, Gilles Raveau.
Mais en fait, le monde occidental, vraiment le monde occidental, dans la représentation qu'il a lui-même, bascule dans les années 70. Et un enchaînement qui est en fait une succession en fait quasiment d'accidents qui va produire le monde dans lequel nous vivons depuis. Donc à la fin des années 60, Milton Friedman effectivement mène une campagne de guerre intellectuelle contre les idées keynésiennes, qui sont majoritaires, y compris aux États-Unis. Et Milton Friedman donc va gagner et c'est un peu le Teddy Riner de la théorie économique, c'est-à-dire qu'il va s'appuyer sur les forces de Keynes pour le détruire. Il va dire les Keynésiens ont raison. Donc ça c'est très malin comme technique. Oui, ils ont raison. Lorsque vous faites du déficit budgétaire, ça crée des emplois. Mais ensuite il dit à long terme le chômage va retrouver son niveau initial, il va pas baisser et vous allez créer un grave problème, l'inflation. Donc j'accepte vos idées dans un premier temps. Mais dans un deuxième temps, je montre qu'elles sont non seulement inefficaces, mais qu'elles sont nuisibles. Mmh. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Le choc pétrolier, qui n'a rien à voir avec les idées keynésiennes, absolument rien à voir. Et le choc pétrolier va exploser l'inflation dans les pays développés. On va avoir 20% d'inflation au Royaume-Uni, aux États-Unis. Et effectivement, les plans de relance qui sont adoptés partout ne parviennent pas à réduire le chômage.
C'est la période de stagflation. On a à la fois une stagnation de la croissance économique et en même temps
l'inflation. Et là, tout le monde se dit, il se passe un truc fantastique qui arrive très rarement. Vous avez un théoricien dont les théories viennent d'être validées par la réalité. Il a raison. Et là, la profession des économistes va basculer extrêmement vite. On va répudier Keynes complètement, qui, sous la plume d'un auteur qui viendra un tout petit peu plus tard, Robert Lucas, qualifiera de ne pas être un économiste. Hein, Robert Lucas nous dira « John Maynard Keynes n'est pas un économiste », tellement la disqualification de la pensée de Keynes va aller loin. Et effectivement, Milton Friedman va avoir le prix Nobel en 76 et en 79, on a Thatcher.
Les idées de Milton Friedman et de Hayek se sont aussi imposées à la faveur du contexte économique international, Alain Laurent.
Ça a créé un contexte, disons, favorable, mais de manière négative. Je crois qu'il y avait une puissance affirmative, préalablement, qui était aussi corrélée à tout ce qui s'est passé au moment de la fin de la guerre froide. Et c'est tout de même, toutes ces idées étaient en train de cheminer plus ou moins souterrainement, en attendant en effet qu'une circonstance favorable se présente. Je voudrais revenir sur un point à propos de Friedman, par exemple. Faut jamais oublier que, originellement, Friedman était keynésien. Il a une jeunesse keynésienne, donc il y a des accointances là sur lesquelles il faudrait revenir. Deuxièmement, ce qui s'est passé avec toute cette éclosion de ce qu'on appelle le néolibéralisme, ce n'est pas de la dérégulation d'abord, c'est de la déréglementation. Et on confond toujours les deux.
Alors, quelle différence faites-vous?
Moi, j'ai tout compris le jour où, étant aux États-Unis, j'entre dans un, à la fois, d'une part, dans un parc national et d'autre part, dans une boutique. Et qu'est-ce qui est affiché à la porte? Regulation. C'est pas de la régulation, ça veut dire, voilà, la règle, voilà, le règlement du parc national, vous levez le camp à 7 heures, etc. Et parce qu'on peut réguler autrement que par réglementation. Maintenant, il y a un vrai débat autour des capacités d'autorégulation qui ont peut-être en effet été surinterprétées du point de vue d'un certain nombre de libéraux. Et puis une dernière chose, vous parliez tout à l'heure de libéralisme radical. Je m'inscris en faux contre ça. Ni Hayek, ni même Mises, ni Friedman ne sont des libéraux radicaux. C'est parce qu'en France, on est tout à fait épouvanté de dire qu'il est question de libéralisme. Un libéral radical, ce serait un libertarien de type anarcho-capitaliste. Mmh. C'est-à-dire quelqu'un qui veut répudier totalement l'État.
Après, le radicalisme est toujours relatif. Ils sont, disons, plus radicaux dans leur rejet de l'État que les ordolibéraux, par exemple. Mais effectivement, moins radicaux que les libertariens.
On est d'accord là-dessus. Oui.
En fait, cette confusion, peut-être, sous l'influence des libertariens américains, mais qui est un phénomène encore complètement différent, qui apparaît dans les années 80. C'est des gens, d'ailleurs, qui détestent Friedman, enfin, qui font quelque chose de tout à fait différent. De Smith à Friedman, le rôle de l'État est majeur. Et je dirais même que les libéraux ont inventé l'État à la fin du XVIIIe siècle. L'État moderne, anglais et français surtout, qui se débarrasse des corps intermédiaires et qui introduit une relation directe entre l'État et l'individu pour l'émanciper des différentes tutelles qui l'astreignaient. Et donc c'est pour ça que c'est à la fois un libéralisme économique et un libéralisme politique. Et c'est pour ça que Durkheim pourra dire au XIXe siècle que étatisme et libéralisme ont été main dans la main en France. Parce que l'État est considéré comme le sauveur, le libérateur de l'individu par rapport à ses communautés, par rapport aux églises, par rapport aux puissances économiques. Et ça c'est un discours qui tient jusqu'à Friedman, pour qui le rôle de l'État, notamment pour garantir les droits de propriété, pour garantir la concurrence, même d'ailleurs chez Friedman pour les politiques de banque centrale, reste extrêmement important.
Mais c'est important ce que vous dites sur cette différence dans le rôle de l'État entre les libertariens
qu'il n'y a pas de marché. Et là, je reprends ce que dit Alain Laurent, il n'y a pas de marché sans régulation. Les premiers marchés, les foires de champagne au Moyen-Âge, Laurence Fontaine a bien montré que quand le marché apparaît, on a besoin de comparer les poids et les mesures, de s'assurer que la marchandise est la même, de s'assurer que les prix sont transparents. Donc je veux juste insister sur le fait que c'est une ânerie intellectuelle de dire qu'il y a d'un côté le marché et qui serait contre l'État. Les deux ont grandi ensemble. Et sur les libertariens, en effet, libertariens, c'est tout à fait autre chose. C'est effectivement, ça se rapproche de l'anarchisme ou de l'anarcho-capitalisme. C'est un idéal de vie qui est intéressant. Moi, j'avais été par curiosité au Free State Project, qui est une réunion des libertariens au New Hampshire tous les ans. Bon, c'est incroyable quelque part. On n'a même plus le droit de payer en dollars, parce que c'est de l'argent banque centrale, c'est pas bien. Alors, il faut payer en cuivre, en argent ou en bitcoin. Les gens sont armés, tout est toléré. Ils sont dans des tentes avec marqué « Don't trade on me ». Enfin, c'est une contre-culture, les libertariens, plus véritablement qu'une philosophie politique, parce qu'en termes de philosophie politique, je trouve ça assez pauvre. Tout ce que dit Rothbard, c'est fondé sur une espèce de droit naturel qui est extrêmement classique.
Alors, n'allons pas trop vite. Oui. Écoutons d'abord la définition que le politiste Sébastien Carré donne du libertarianisme.
On peut dire que c'est d'abord un positionnement politique qui associe trois principes importants. La défense des libertés économiques, donc des réglementations du marché, démantèlement de l'État-providence, mais aussi défense des libertés individuelles. Donc légalisation de toutes les drogues, défense de la liberté d'expression la plus totale, défense de la pornographie, etc., etc. Et puis à cela s'ajoute une troisième position, un peu moins importante que les autres, mais tout de même, qui est, disons, une position isolationniste et une résistance contre l'impérialisme américain. Et ces trois positions ont été tenues historiquement, se sont regroupées dans les années 60. C'est là que le mouvement naît, en fait, autour d'un mariage assez improbable entre, d'un côté, des militants plutôt à la droite du Parti républicain de l'époque, qui vivaient de plus en plus mal la compagnie avec les conservateurs, de plus en plus traditionnalistes, et de l'autre côté, des militants de la gauche contestataire, de la contre-culture américaine.
Alain Laurent, le mouvement libertarien réunit des groupes politiques a priori tout à fait opposés, comme nous le dit Sébastien Carré.
Je ne crois pas. Il y a une autre distinction au sein des libertariens, ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, les anarcho-capitalistes, par exemple à la Rothbard et pas mal d'autres. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le terme « libertarian » aux États-Unis a une acception beaucoup plus vaste qu'on ne le croit en France. Hayek et Mises et Friedman sont fréquemment qualifiés de « libertarian ». Par opposition, justement, à l'évolution qu'a suivi le mot « liberal » aux États-Unis, à savoir envoyé à au mieux à une social-démocratie améliorée et souvent au gauchisme culturel.
C'est pour ça qu'on parle de conservateurs aux États-Unis quand on veut parler de libéraux en France.
L'une des manifestations les plus importantes du libertarianisme aux États-Unis, c'est par exemple l'objectivisme qui s'est inspiré des idées d'Ayn Rand, et ces gens-là sont tout à fait en fonction de, en mesure d'approuver ce qu'on appellerait par exemple en France la conception régalienne de l'État. Donc il peut y avoir des libertariens tout à fait favorables à une présence forte de l'État, mais comme on le disait tout à l'heure, pour défendre les libertés individuelles, assurer qu'il n'y ait pas de fraude, etc., etc. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus vaste et diversifié qu'on ne le croit.
Là encore, il faut distinguer à l'intérieur du mouvement libertarien entre ceux qui rejettent complètement l'État et ceux qui veulent encore un petit peu d'État, Gaspard Koenig.
Oui, vous avez même chez Nozick, un des premiers libertariens. Alors, c'est par exemple, Nozick imagine un cadre qui s'appelle l'utopie des utopies. L'utopie des utopies, c'est que chacun peut constituer sa propre utopie. Donc, on se regroupe en fonction de ses affinités par communauté choisie. Mais il faut quand même qu'il y ait un cadre général qui vérifie que, par exemple, aucune communauté ne devient oppressive. C'est-à-dire qu'on a toujours un droit d'exit de la communauté pour aller, puisque s'il faut les expérimenter et s'il faut qu'elles se regardent les unes les autres, il faut bien que les gens puissent aller de l'une à l'autre. Et donc là, on voit bien qu'il y a un espace pour une sorte de puissance publique. Après, vous avez des gens comme David Friedman. C'est amusant, c'est le fils de Milton. Donc David Friedman, lui, veut absolument tout privatiser, y compris, alors non seulement l'armée, mais ça, c'est juste le début. Il veut privatiser le système de droit. Et donc, c'est assez incroyable quand on lit ses livres, c'est complètement fou, mais c'est amusant théoriquement, parce que ça va tellement loin, où chacun imagine son propre système de régulation. Et quand il y a un conflit entre deux parties, eh bien, c'est des arbitres, en fonction des conditions d'arbitrage posées par chacun. On peut imaginer que l'intelligence artificielle rendrait ça très facile aujourd'hui, qui permettront de régler le conflit. Et puis alors, ce qui est encore plus amusant dans la famille Friedman, c'est que vous avez maintenant le petit-fils, qui s'appelle Patrick Friedman, et qui, lui, fait partie du mouvement lancé par Peter Thiel pour construire des îles sans État artificielles en eau internationale. Et devinez où la première île doit être construite. En France, figurez-vous, puisque ils ont signé un protocole d'accord avec la Polynésie française. C'est assez rigolo. Et donc là, c'est une espèce d'application grandeur nature, une forme d'utopie des utopies, où chacun a sa petite île, ce sont des îles individuelles, et peut rejoindre d'autres îles dans la mer. Mais là, il y a toujours un droit d'exit, puisque chacun peut reprendre son île. Bon, alors, c'est quand même des choses qui sont poétiques, quasiment.
C'est ça.
Mais qui, effectivement, sont très loin, je pense, de la philosophie politique et de la conception des politiques publiques, telles qu'on peut les discuter sérieusement.
Gilles Raveau, sur le libertarianisme, les différentes formes de libertarianisme dont on parle.
Tout ça, effectivement, voilà, c'est très excitant intellectuellement. Enfin, on prend un pied terrible. Il y a une liberté de penser qui est drôle, effectivement. Je pense que le terme de poésie est le terme qui convient. Mais effectivement, le problème de tout ça, c'est qu'est-ce que c'est que la liberté ? Qu'est-ce que c'est que la liberté ? Par exemple, aujourd'hui, vous m'avez invité à votre émission. Donc j'étais libre de venir. Il n'y avait aucune force publique ou privée qui m'empêchait de venir. Mais est-ce que j'aurais pu venir si j'avais pas eu les moyens de me nourrir, si j'avais pas eu les moyens de payer le transport ? Non. Je n'aurais pas pu venir. J'avais la liberté de venir, mais je n'aurais pas pu venir.
Ce que vous dites, c'est que l'État peut jouer justement un rôle libérateur pour l'individu.
Non, mais ce que je veux dire, oui, évidemment, c'est effectivement l'État est à la. Enfin, Gaspard a très bien expliqué. L'État est à la naissance de l'individu. Les États les plus perfectionnés du monde, les États scandinaves, sont aussi les États qui ont allé le plus loin dans l'individualisme, avec notamment la revendication des droits, par exemple, des minorités sexuelles. Alors, donc ça, c'est évident. Mais je voudrais juste quand même dire quelque chose factuel qui me semble plus important que ça, c'est que la mise en œuvre des politiques néolibérales depuis les années 80 a considérablement réduit les libertés de dizaines, de centaines de millions d'individus là où elles ont été appliquées. C'est-à-dire que Thomas Piketty a très bien montré dans son fantastique ouvrage que les inégalités augmentent à partir des années 80, justement, quand arrivent Reagan et Thatcher. Mais ces politiques ont aussi réduit la liberté. Ces politiques ont accru la liberté de gens comme nous, qui sommes autour de cette table, parce qu'on peut plus facilement voyager, ce qui est une liberté extraordinaire. On peut avoir accès à la connaissance. Moi, quand j'étais en thèse, grâce à Amazon, j'avais des livres américains, deux jours après, dans mon casier, à l'université, que je ne pouvais pas trouver en France. C'est une liberté que me donne le marché.
Toute la question étant, effectivement, de qui accroît-on la liberté,
Gaspard? Oui, mais justement, je voulais dire que, et ça va rejoindre ce qui vient d'être dit, qu'il y a une scission assez intéressante au sein du mouvement libertarien, récente avec l'apparition de ce qu'on appelle les libertariens de gauche, qui sont parfois surnommés aux États-Unis les Bleeding Heart Libertarians, les libertariens avec le cœur qui saigne, les libertariens qui ont de l'empathie, quelque part. Et ça rejoint beaucoup ce que dit Philippe Van Parys, qui est un philosophe belge, sur le réel libertarianisme. Et pourquoi il appelle ça réel libertarianisme? Parce que c'est des gens qui disent qu'il faut retrouver, en fait, la notion marxiste de liberté réelle. En disant, c'est pas le tout d'avoir une liberté négative et de pouvoir de faire tout ce qui ne nuit pas autrui. Il faut aussi avoir les moyens d'exercer cette liberté. Et donc, là, il y a un rôle, effectivement, pour le gouvernement, pour donner, et moi, je me reconnais pas mal dans cette philosophie-là, pour donner à l'individu les moyens de ses choix.
D'où l'idée d'un revenu de base, qui est défendu par les libertariens de
gauche. Libertariens de gauche, vous avez Zwolinski aux États-Unis, vous avez Van Parys, il y a des gens un peu partout qui, justement, embrassent cette notion en disant on va, si vous voulez, sortir du planisme, de systèmes sociaux qui sont fondés sur les statuts, pour être complètement individualiste. Mais c'est pas parce qu'on est individualiste qu'on n'aide pas les gens. On peut les aider à se constituer individus. Et si, comme on le disait, la liberté n'est pas un donné, mais quelque chose qui se construit et qui se construit socialement, si s'échapper de la tribu, ça reste notre projet de civilisation, à ce moment-là, c'est quelque chose qui demande, en fait, beaucoup de moyens publics, mais fondé sur la liberté de choix de chacun. Et donc, dans ce cas-là, l'État ne vous dira jamais dans quelle entreprise il faut investir, quelle éducation il faut avoir. Il vous donnera les moyens de faire ce choix vous-même.
Mais quelle différence de ce revenu de base avec, par exemple, le revenu universel dont on a pu entendre parler?
C'est pareil. Je tiens, d'ailleurs, sur le revenu de base, je tiens à dire que c'est quand même quelque chose qu'on retrouve assez loin dans la philosophie libérale, puisque chez John Stuart Mill, vous avez déjà cette idée. Chez Hayek, il y a un fameux paragraphe où il explique qu'il faudrait un revenu minimum. Friedman a bien sûr conçu l'impôt négatif. Après, on peut dire est-ce qu'il est universel ou pas. Il y a des longues discussions là-dessus, mais Van Parys a bien montré que l'impôt négatif et le revenu universel conçu comme comme un crédit d'impôt, c'est pareil. Il y a quand même cette idée que est-ce qu'il faut une politique pour sortir les gens de l'extrême pauvreté? Oui. Et la manière la moins paternaliste de le faire, c'est-à-dire sans demander aucune condition, sans être du tout inquisitorial, ça passe par le revenu universel. Et donc Foucault, lisant les libéraux dans sa naissance de la biopolitique, c'est assez amusant à lire ce texte, parce qu'au début, il est très méfiant, il est très défiant, c'est des cultures qui sont très sociologiquement, intellectuellement très éloignées. Et puis peu à peu, il tombe notamment sur cette histoire d'impôt négatif, et il se rend compte, et il le dit lui-même, ça serait une véritable révolution, parce que ça serait une manière non bureaucratique, non inquisitoriale, de s'affranchir de finalement ce qui restait la dernière grande valeur commune autoritaire, entre guillemets, qui était le travail. Et donc on voit Foucault rejoindre, alors il le dit jamais comme ça, mais enfin en tout cas avoir beaucoup d'intérêt pour ce genre de politique publique.
Alain Laurent, sur les critiques peut-être qu'on peut formuler à l'égard du libertarianisme, il y a de nombreux travaux d'ethnologues, comme ceux de Pierre Clastres, qui montrent qu'une société sans État n'est pas une société d'individus libres.
Exactement.
Oui, parce que, ce que ne voient souvent pas nombre de libéraux, de libertariens, c'est que l'État n'est pas la seule source possible d'oppression, de privation de liberté. Il y a aussi tout ce qui est grégaire, tout ce qui vient du groupe, de la communauté, de la tribu, etc. Et c'est quelque chose qu'ils ont tendance à négliger. Je vais tout de même revenir sur cette idée de liberté négative et de liberté, en fait, positive. Parce qu'à partir du moment où on dit qu'une instance quelconque, l'État en particulier, doit intervenir pour construire la liberté positive des uns, ça veut dire qu'il sera contraint d'enfreindre la liberté négative des autres et se de dispenser de leur consentement, ce qui est proprement anti-libéral. En conséquence, il y a tout de même une contradiction à vouloir souhaiter une intervention de l'État autre que négative, ou autre en tout cas que favorisant de façon latérale quelque chose qui pourrait en effet permettre, et là, je suis pas d'accord du tout avec le revenu universel, de permettre à chacun de gagner librement sa vie par soi-même. Moi, je fais beaucoup plus partie de ceux qui veulent régénérer l'idée du travail avec un certain nombre de dispositifs. Puisqu'on parlait de John Stuart Mill, il est tout de même intéressant de savoir que John Stuart Mill, que j'ai réédité dans mes collections il n'y a pas très longtemps, avait dit tout à fait autre chose. C'est que lui, il souhaitait qu'il y ait des solutions coopératives, auto-organisées, d'autogestion. L'autogestion coopérative me semble d'ailleurs une idée parfaitement libéral dans son principe.
Et on va en venir dans un instant à cette question de la place du néolibéralisme dans notre économie aujourd'hui. On en parle dans un très court instant.
Entendez-vous l'écho? Tiffaine de Rocchini.
Private property, Don't run off with it, you'll be breaking the law. Love monopoly, my philosophy. Don't go fooling with private property. She's mine, she belongs to me. And we'll get on fine as long as you agree that she's mine. Private property, private property. Private property, don't run after it, you'll be facing a charge. Have some common sense, you get off the fence. Don't go fooling with private property.
Private Property de Ringo Starr. Nous sommes avec Gaspard Koenig, Gilles Raveau et Alain Laurent pour parler de l'héritage du libéralisme. Alors, est-ce qu'il faut considérer aujourd'hui notre modèle économique comme un modèle néolibéral? Et si oui, est-ce que selon vous, c'est un modèle qui a supplanté les anciens modèles ou est-ce qu'il s'inscrit dans leur continuité, Alain Laurent?
Bah, tout dépend de quel pays il s'agit. Oui. Si on parle de la France, c'est encore un pays qui demeure presque incurablement englué dans une sorte de social-étatisme. Il n'est que de considérer encore la base de réglementation qui demeure. Le fait que malgré tout ce qu'on fait, on est le pays d'Europe où il y a le plus haut niveau de chômage, voire aussi tout ce qui relève de la dépense publique, des déficits.
Donc les États-Unis et le Royaume-Uni seraient néolibérales et pas la France.
Et surtout, à la France, on n'a rien de néolibéral. Elle est peut-être néo-socialiste, c'est tout ce que l'on peut dire. Et puis il faut considérer aussi le niveau de la fiscalité, qui est tout de même un des points, un des critères fondamentaux dans l'évaluation libérale d'une situation.
Mmh. Gilles Raveau, vous diriez que nous avons aujourd'hui un modèle néolibéral en France?
Je pense qu'Alain Renaud a raison, dans le sens que, par exemple, on sait bien qu'il n'y a pas de riches en France.
Alain Laurent, pardon.
C'est-à-dire que, effectivement, la fiscalité est tellement confiscatoire en France que c'est impossible de devenir riche. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons un nombre de millionnaires rapporté à la population qui est un des plus élevés du monde. Donc, je crois qu'il faut arrêter un petit peu avec ce genre d'absurdité. Alors, pour reprendre ce que disait Gaspard, effectivement, construire une société libérale, ça demande énormément d'argent. Ça demande énormément d'intervention. Par exemple, construire une société libérale, alors, il y aurait plein de choses à faire. Ça, par exemple, évidemment, supprimer l'héritage. À la base du libéralisme, c'est l'absence d'héritage. Je vous renvoie à un très bon article de Christian Chavagneux, qui s'appelle « Taxer vraiment l'héritage », qui montre que l'héritage est très peu taxé en France. D'autre part, ça serait, effectivement, construire une politique d'égalité des chances, ce qui demanderait énormément d'argent, mais un argent colossal, pour que, par exemple, tous les enfants aient un logement suffisamment grand pour pouvoir étudier. Il y a plein d'études de sociologie qui montrent que lorsque les logements sont trop petits, ça a des conséquences très importantes sur l'échec scolaire des enfants. Ça demande des sommes très importantes. Et je pense qu'une des réussites intellectuelles du néolibéralisme, c'est d'avoir restauré cette très vieille idée victorienne selon laquelle nous sommes pauvres. Selon laquelle il faut faire des choix difficiles. Cette idée du sacrifice, de la souffrance dont parlait beaucoup Bernard Maris, qui est au cœur de la pensée économique depuis l'origine. Or, lorsqu'on regarde quelques chiffres, on voit qu'en France en particulier, nous sommes, ça ruisselle de richesse. Nous sommes un pays extraordinairement riche.
Et en même temps, la croissance a largement diminué à partir du milieu des années 70. Donc,
oui, mais la croissance, on s'en fiche. Si vous regardez, je vous donne un seul chiffre. Il y a aujourd'hui 400 milliards d'euros qui sont sur les comptes courants de nos concitoyens. Ce n'est pas de l'épargne. Hein, c'est de l'argent liquide qui n'est pas sous le matelas, mais qui est à la banque. La transition écologique, selon la plupart des estimations, c'est 50 milliards d'euros par an pendant 10 ans. Autrement dit, on pourrait de façon extrêmement facile, mais plus que facile, financer la transition écologique, créer des centaines de milliers d'emplois, ce qui serait beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace que de construire des usines à gaz comme la location universelle pour améliorer la situation des gens. Donc, ce qui est très très impressionnant, et je pense que c'est peut-être c'est une des grandes victoires intellectuelles du néolibéralisme, c'est d'avoir réussi à nous faire croire que nous, aujourd'hui la France, finalement, pas le cas de la majorité de l'humanité, mais que nous, Français, nous, qui habitons ce pays, nous devons nous priver que notre économie fonctionne mal alors qu'elle est extraordinairement performante et que nous n'avons pas les moyens de résoudre les grands problèmes d'aujourd'hui socio-écologiques alors que nous avons 10 fois les moyens de les résoudre.
Si je comprends bien, Gilles Raveau, peut-être que le fil rouge des différents néolibéralismes dont on a parlé, ça pourrait être justement cette importance accordée à la croissance économique, Gaspard Koenig.
Oui, alors juste pour revenir quand même sur la question sur la France, parce que je trouve que la France est effectivement un cas un peu particulier, parce qu'on peut être critique du néolibéralisme, comme c'est mon cas, tout en acceptant le fait qu'un des problèmes de la France, c'est que précisément elle a sauté l'étape néolibérale. Quand tous les pays ont fait des réformes, enfin quand beaucoup de pays ont fait des réformes néolibérales dans les années 80, c'est exactement ce que voulait faire Giscard, c'est d'ailleurs ce qu'a voulu faire Chirac quand il était Premier ministre. Mais au fond, il y a eu une espèce de contre-courant de l'histoire. C'est François Mitterrand qui a été élu pendant 10-15 ans. Résultat, la France n'a pas fait ce qu'ont fait tous ses voisins. Par exemple, c'est un exemple parmi beaucoup, démanteler le statut de la fonction publique. Vous avez toujours une fonction publique sous statut. Vous n'êtes pas dans un pays qui a appliqué à la lettre le néolibéralisme. C'est pas possible de dire ça. Et je pense que les gens qui sont critiques, et à juste titre d'ailleurs, le néolibéralisme, devraient aussi faire l'effort intellectuel de comprendre qu'en France, on n'est pas rentré à plein pied dedans et que ça pose d'autres problème qui est, si on veut décrire le régime dans lequel on vit, moi je décrirais plutôt comme du capitalisme de connivence, c'est-à-dire que vous avez des politiques pro-business qui sont pas des politiques de concurrence, qui sont des politiques de rente, et c'est pas parce que vous baissez l'impôt sur les entreprises que vous faites une politique libérale, effectivement, comme fait ce gouvernement. Maintenant, sur l'utilité, je trouve ça intéressant, c'est d'ailleurs effectivement pour ça que Foucault se réfère à Becker quand il parle de néolibéralisme. Je pense qu'en effet, un des travers, je pense qu'il y a deux gros problèmes dans le néolibéralisme, là on parle plus de la France, hein, on parle de la vraie doctrine, si vous voulez. Je pense qu'il y a deux problèmes théoriques fondamentaux qui expliquent aujourd'hui son échec et qu'il faut donc renouveler. Les deux problèmes, c'est d'abord la foi dans un individu rationnel. Friedman a fait sa thèse en imaginant que les gens faisaient leurs dépenses de consommation courante en fonction des taux de la banque centrale et de l'anticipation d'inflation.
Oui, mais c'est la théorie de l'homo economicus, elle est largement dépassée aujourd'hui. Mais
justement,
Jean Tirole lui-même remet ça en question.
Tout à fait, mais néanmoins, c'est les fondements du néolibéralisme, c'est ça. Et il y en a un deuxième qui est l'utilité. Effectivement, à savoir que la finalité d'une société, c'est d'optimiser l'utilité des individus. Et là, sur les deux plans, je dirais que sur la question de l'individu rationnel, les neurosciences, la psychologie d'un Daniel Kahneman, l'économie comportementale, tout ça, ont complètement détruit cette idée-là. Et c'est pour ça qu'il faut tomber dans le super nudge et dans une société à la chinoise. Mais enfin, en tout cas, ça doit nous forcer à réfléchir. Et que, deuxièmement...
Le nudge, c'est cette incitation pour les auditeurs.
Et sur la question de l'utilité, je pense que là, il faut réhabiliter John Stuart Mill contre Bentham et dire que l'utilité, c'est intéressant, mais que précisément, les individus doivent avoir, pour prendre une expression que j'adore, de Isaiah Berlin commentant John Stuart Mill, un droit à l'errance. Et que ce qui est le plus fort dans le libéralisme, c'est la question de la diversité des comportements individuels et de la tolérance à cette diversité, y compris à la déviance, et y compris une déviance qui serait contre-productive pour l'ensemble du groupe et qui est d'autant plus important à l'ère de l'intelligence artificielle, où précisément tous ces systèmes, que ce soit des systèmes d'État ou des systèmes privés, sont faits pour maximiser notre bien-être et nous empêchent de sortir des clous. Et c'est ça le plus grand danger pour moi aujourd'hui.
Vous parliez du capitalisme de connivence, Gaspard Koenig. Je voudrais qu'on écoute maintenant le sociologue Christian Laval qui propose une autre définition du néolibéralisme.
Ce concept, qui est un concept de philosophie politique, c'est un concept aussi de sociologie politique, est un usage finalement assez dilué, où on ne sait pas très bien de quoi il s'agit, et finalement on a l'impression qu'il s'agit d'un slogan qui ne veut pas dire grand-chose. Or, ce que nous avons essayé de faire dans la nouvelle raison du monde, c'est d'essayer de montrer qu'il s'agit d'une rationalité, d'une logique normative, si vous voulez, qui a deux grands axes, qui consiste, pour transformer la société, pour transformer les relations entre les individus, pour modifier les institutions, de s'appuyer sur, d'un côté, le modèle de l'entreprise, qui serait universalisable, qui serait généralisable, et d'autre part, la norme du marché. C'est-à-dire qu'au fond, toutes les relations humaines et toutes les institutions devraient être gouvernées par un principe de concurrence.
Que vous inspire cette vision du néolibéralisme, Gilles Raveau? Il faut voir le néolibéralisme comme une nouvelle forme de gouvernementalité?
Alors oui, ça c'est très important. Et je vais raconter une petite histoire. Je vais aller rencontrer un collectif de citoyens qui sont battus sans succès contre la fermeture de leur maternité. Ça se passe au Blanc, dans l'Indre, ville de 5000 habitants. Et on voit les choses se mettre en place, c'est vraiment très intéressant. La première chose, c'est que donc la ministre Agnès Buzyn, en fait, insulte les personnels soignants de cette maternité en leur disant que leurs pratiques sont dangereuses. C'est le terme qu'elle utilise. Alors que c'est faux. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune espèce de problème dans cette maternité, qui n'a jamais connu de problème plus qu'ailleurs, et qui, au contraire, connue dans la région pour la qualité des soins qui est apportée, notamment en raison de sa taille relativement modeste. Ensuite, l'administration joue sur la rivalité entre les services publics. Il y a l'hôpital de Châteauroux, qui n'est pas très loin, qui est moyen, mais qui n'est pas très gros. Et donc, évidemment, ce qui se dit, si la maternité du Blanc ferme, qui est à 60 km, eh ben, il y aura plus de clients hein, à la maternité de Châteauroux, et donc ça augmentera les chances de durée de l'hôpital. Ensuite, il y a le mépris, c'est-à-dire que les familles du Blanc s'installent tranquillement avec leurs enfants, que c'est des gens qui ont des métiers, qui ont des vraies responsabilités, qui travaillent vraiment dur, beaucoup plus que les fonctionnaires ou les membres du gouvernement, et pendant 2 semaines, ils sont à la maternité. Qui vient les voir? Qui vient discuter avec eux, leur demander ce qui se passe? Personne.
On entend bien cette idée d'une concurrence généralisée. Je voudrais entendre Alain Laurent à ce sujet et notamment sur cette possibilité qu'évoquait Gaspard Koenig de faire évoluer le néolibéralisme tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Oui, moi je reviens aux pistes que j'avais esquissées tout à l'heure. Hein, en particulier de toutes ces solutions alternatives et de type alternative et économique d'ailleurs, donc du côté de l'autogestion, de la coopération, en venant d'ailleurs à ce que préconisait quelqu'un qui s'est toujours beaucoup plus rapproché du libéralisme qu'on le croit, qui est Proudhon, la libre association. Mais je serais parfaitement ennemi de tout ce qui attente à la liberté volontaire d'associations et qui va traiter de l'État de ce point de vue-là. Et un petit point pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure à propos de l'héritage. C'est tout de même une simplification extrême de dire que tous les libéraux libertariens sont opposés à l'héritage. Le principe libéral, libertarien fondamental, c'est la libre disposition de ce que l'on a gagné ou reçu sans exercer de contraintes arbitraires à l'égard des autres. Et il y a un débat interne au libéralisme, de ce point de vue-là. Vous avez des gens comme Warren Buffett aux États-Unis qui veut déshériter, en effet, ses enfants pour qu'ils repartent des eaux. Puis d'autres, ils disent, non. Et faites attention sur le plan de la fiscalité aux écrits, par exemple, d'un philosophe allemand comme Peter Sloterdijk, qui dit tout doit reposer sur le don volontaire, sinon on retombe sur l'état coercitif et spoliateur.
Sur la question de l'héritage, je renvoie les auditeurs à la semaine qui avait été présentée par Arjuna Andrade il y a quelques mois sur ce sujet. Mais je voudrais poser une question importante qui est est-ce que le néolibéralisme est sorti renforcé de la crise de 2008 ou au contraire fragilisé? On voit que tout le monde n'est pas d'accord sur ce point, Gilles Raveau.
C'est-à-dire que Gaspard l'a dit, l'échec, en fait, si vous savez, c'est la petite histoire pour enfants, le roi est nu. Hein, c'est-à-dire que tout le monde sait. C'est ça qui est très impressionnant dans la situation actuelle. Nous savons tous que nous allons à une très grande catastrophe écologique et sociale. Nous le savons. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que nous connaissons toutes les solutions. Il y a une intelligence collective extraordinaire dans notre pays, dans tous les pays. Vous avez par exemple les ingénieurs du groupe de recherche Negawatt qui vous expliquent très, très facilement comment passer à 100% d'énergie renouvelable en quelques décennies. Donc nous avons les solutions techniques, nous avons 100 fois plus d'argent qu'il ne faut pour répondre aux questions.
Mais il y a eu une prise de conscience avec cette crise de 2008, sans pour autant mettre en œuvre les mesures qui s'imposeraient peut-être.
Et bien voilà, mais ce qui est très impressionnant, c'est que qui nous gouverne aujourd'hui? Ça c'est fascinant quand même. Qui est Emmanuel Macron? C'est un homme jeune, dont on avait pu penser pendant la campagne présidentielle qu'il avait compris ce qui se passait. Et qu'est-ce qu'on constate? Il ne comprend rien. Il ne comprend rien à ce qui se passe. Et alors pourquoi est-ce qu'il ne comprend rien, cet homme aussi intelligent? Parce qu'il a en tête les mauvaises idées. Et d'où elles viennent ces mauvaises
idées? Vous diriez qu'il est encore imprégné par cette idéologie néolibérale, en tout cas telle qu'elle a pu être définie par Friedman ou Hayek?
Je pense que c'est ce qu'il dit lui-même, oui.
Il faut le rééduquer.
Gaspard Koenig.
Un niveau quand même assez modéré, c'est-à-dire qu'il combine un peu le pire de deux mondes, c'est qu'il est à la fois effectivement dans cet esprit, mais qu'en même temps, il ne va même pas jusqu'au bout des réformes que cela pourrait entraîner. Après, est-ce que je peux reprendre un peu les petits exemples, parce que je trouve que c'est bien, ils permettent de distinguer un peu les différentes doctrines qu'on a passées en vue de manière très concrète. Si on prend l'histoire de la maternité, c'est vrai qu'une politique fondée sur l'utilité dirait on ferme la maternité, si on fait plus d'économies, on est une maternité plus grande, c'est bien, puisque au fond, ces économies permettent aux gens d'avoir plus d'argent. Et donc ça, c'est parfaitement rationnel, c'est quelque chose qui peut être planifié d'en haut, et c'est quelque chose, encore une fois, que l'intelligence artificielle nous pousse à faire. Vous avez ensuite Alain Laurent qui va dire, après tout, si les gens veulent s'associer entre eux pour se construire une maternité, on va évidemment pas les en empêcher, donc il faut faire du localisme, il faut déléguer, il faut transférer le pouvoir au niveau le plus bas pour que les gens choisissent eux-mêmes d'arbitrer leurs besoins et leurs préférences. Et après, on pourra répondre à Alain Laurent, oui, mais enfin quand même, si vous êtes dans un territoire rural où les gens n'ont vraiment rien, où ils sont très pauvres, bah, du coup, ils n'ont pas les mêmes moyens pour mettre en place une maternité qu'à Neuilly-sur-Seine. Quoi, je dirais, mais oui, mais grâce au revenu universel, les gens pourront, eh ben oui,
si vous mettez aussi... Merci de résumer l'émission.
Les gens pourront, seront aidés pour faire ce choix, mais qui restera un choix, puisqu'ils pourront dire, bah non, nous, on préfère la grosse maternité et utiliser ce bout de revenu universel pour faire autre chose. Sur l'environnement, je suis désolé, on n'a pas tous les mêmes solutions, parce que l'environnement est un immense problème, et évidemment, il faut accepter le consensus scientifique sur ce sujet, mais est-ce que je crains que ça soit maintenant le fauné pour refaire de la planification d'État centralisatrice façon New Green Deal. Il y a des solutions libérales pour l'environnement, comme la taxe carbone. Je sais qu'elle est compliquée à mettre en œuvre, mais c'est beaucoup plus malin de permettre aux gens de faire des choix et de les inciter à faire les bons choix en régulant par le prix que de tout faire depuis avec quelques ingénieurs dont vous parliez qui nous expliquons comment la société doit être organisée.
Vous aussi, Alain Laurent, vous redoutez que la transition écologique soit le cheval de Troie du planisme, du retour
du planisme. Pas de transition écologique, de la manière dont elle est...
Je vais revenir à l'alternative au revenu universel, c'est le don volontaire sur une cagnotte.
Oui, oui.
Alors expliquez-nous.
C'est cohérent.
On remplace la sécurité sociale par l'ITCHI.
Absolument, oui, c'est-à-dire. Et on voit que ça marche, d'ailleurs.
Allez, on va finir cette émission avec James Galbraith.
Ce qu'on appelle le pouvoir conservateur aujourd'hui est une forme tout à fait transparente de copinage érigée en gouvernement. C'est cette forme que j'appelle l'État prédateur. Dans les moindres recoins des structures de régulation et d'approvisionnement, le principe est le même, c'est-à-dire mettre au pouvoir des clients, des amis et des partisans pour permettre aux lobbies de réécrire les différentes réglementations et de parasiter leur application. En fait, pour dire les choses simplement, c'est une forme de pillage à grande échelle organisée en politique publique. Et c'est dans ce système dans lequel nous vivons depuis une dizaine d'années.
Voilà, on entendait l'économiste américain James Galbraith lors d'une conférence donnée en 2008. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de Galbraith selon laquelle le néolibéralisme ne correspond plus à un désengagement de l'État, mais à une capture des intérêts privés au profit des intérêts publics, pardon, au profit du privé, ce qu'il appelle l'État prédateur, Alain Laurent?
Je pense que c'est une vue partielle des choses. Pour une part, c'est exact, mais on pourrait démontrer exactement l'inverse dans d'autres domaines. Donc ça paraît, encore une fois, quelque chose de terriblement simplificateur et idéologiquement très orienté.
Gilles Raveau.
Ben c'est évident, il suffit de regarder les faits. Quelques exemples. On nous traîne depuis des décennies le déficit du régime des retraites, qui est cette invention, en fait. On pourrait parfaitement le résoudre avec une politique basique de plein emploi. Donc évidemment, comme il y a une très grande inquiétude sur les retraites, les gens cotisent à des fonds privés. Donc l'échec de l'État génère des fonds privés qui sont très actifs pour entraîner l'échec de l'État. On ferme les maternités, on ferme les services publics. Ceux qui ont les moyens se tournent vers, évidemment, les entreprises privées. Donc il y a des entreprises privées qui, par des moyens qu'on connaît, effectivement, qui sont légaux d'ailleurs, effectivement, influents, sont présents. Alors aujourd'hui, c'est très pratique, hein, puisque les lobbyistes privés sont directement au gouvernement. Donc effectivement, ça facilite les choses. Et on a une dégradation. Enfin, c'est archi connu. Enfin, c'est observé dans tous les pays qui sont passés avant nous à la moulinette néolibérale, comme l'expliquait Gaspard. Effectivement, on a une très forte dégradation des services publics qui deviennent des services pour les pauvres, hein, donc ils sont stigmatisés en tant que tels et donc auxquels les classes moyennes font tout pour échapper et se tournent vers le privé.
Un dernier mot, Gaspard Koenig, sur cet état prédateur décrit par James
Galbraith. C'est aussi celui qui a inventé la notion de technostructure. Et donc, si vous voulez me faire dire qu'aujourd'hui c'est la technostructure le problème, je ne peux qu'approuver. Effectivement, alors est-ce que c'est vraiment lié au néolibéralisme ou à la manière dont l'État a dégénéré dans l'ensemble des pays du monde occidental, je serais plus prudent. Mais effectivement, le fait que maintenant, il n'y a qu'à voir l'argent absolument incroyable qu'ont les entreprises françaises aujourd'hui, qu'elles dépensent de manière, alors là, complètement irrationnelle pour le coup, parce qu'elles ont des rentes, et qu'elles tirent ces rentes avec une structure, parce que particulièrement en France, vous passez du public au privé en étant dans la botte de l'inspection des finances, et puis après vous êtes à la tête d'une boîte, et puis vous retournez en cabinet, puis après vous revenez dans la boîte. Enfin, c'est juste incroyable. Et ça, mais c'est quelque chose qui se voit sociologiquement dans la société parisienne. Landier et Tesmar avaient fait une note il y a 10 ans pour démontrer les effets de connivence dans les différents conseils d'administration. Et là, de quoi a besoin pour le coup, très clairement, la France, de ce point de vue-là, c'est de politiques de concurrence qui permettent justement de sortir et de dégangréner ces liens incestueux.
Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ce vaste sujet qu'est le néolibéralisme. Un grand merci à tous les trois.
Merci.
Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous nous parlez aujourd'hui de l'amende colossale que le gendarme américain de la concurrence s'apprêtait à infliger à Facebook suite au scandale Cambridge Analytica.
Oui, et ce sont les dirigeants de Facebook eux-mêmes qui ont annoncé lors de la présentation des résultats de l'entreprise avoir mis de côté 3 milliards de dollars pour régler la sanction qui ne devrait pas manquer de leur être infligée par le gendarme américain de la concurrence. Pour rappel, la firme américaine est accusée d'avoir laissé le prestataire Cambridge Analytica aspirer les données de millions d'utilisateurs sans leur consentement. Un scandale particulièrement violent outre-Atlantique puisque ces données auraient été utilisées pour favoriser l'élection de Trump en permettant un ciblage encore plus efficace et précis des électeurs. Mais s'il s'agit de l'amende la plus importante jamais infligée à un acteur du numérique, cette sanction reste en réalité relativement indolore pour le mastodonte qu'est Facebook, surtout quand on compare cette amende aux 15 milliards de dollars engrangés par la firme au dernier trimestre.
La sénatrice Elizabeth Warren a ainsi dénoncé ce qu'elle qualifie de petite tape sur la main, estimant que ce n'est pas ce type de sanction qui empêchera Facebook de récidiver.
Oui, la sénatrice démocrate estime donc qu'il faudrait mettre en œuvre de véritables changements structurels pour se prémunir contre la toute-puissance de Facebook. Un sentiment qu'elle n'est d'ailleurs pas la seule à partager puisque de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer le pouvoir acquis par l'entreprise qui s'immisce chaque jour un peu plus dans tous les interstices de nos vies.
Certains vont même jusqu'à demander le démantèlement pur et simple du géant californien.
Oui, tout simplement. Une recommandation formulée par nul autre d'ailleurs que le cofondateur de Facebook lui-même, Mark Hughes, qui a rencontré Mark Zuckerberg à Harvard, est monté avec lui ce qui devait devenir le plus grand réseau social planétaire et qui est aujourd'hui l'un des plus sévères contempteurs de la firme. Il estime ainsi que les concepteurs de Facebook n'ont pas suffisamment réfléchi à la manière dont l'algorithme du réseau pouvait influencer les élections, amplifier les passions et même modifier nos façons de penser. Au-delà des orientations discutables de la firme, Mark Hughes critique surtout le manque de transparence et l'absence absolue de contre-pouvoir dans cet empire dirigé par un seul.
Il explique ainsi que Mark Zuckerberg ne rend de compte à personne puisqu'il détient 60% des droits de vote au sein du conseil d'administration.
Exactement, il est ainsi seul à définir les grandes orientations de la firme et peut par exemple choisir de changer du jour au lendemain le code et la philosophie des algorithmes au cœur du réseau avec les conséquences que l'on sait pour des centaines de millions d'utilisateurs. Mark Hughes appelle donc le gendarme de la concurrence à scinder la firme en 3 entités distinctes, WhatsApp, Facebook et Instagram, afin de rétablir une forme d'équilibre au sein de l'empire.
Mais il est intéressant de constater que cet exercice d'autocritique touche même les dirigeants actuels de la firme.
Oui, c'est ainsi Mark Zuckerberg lui-même qui a déclaré dans une autre tribune qu'il souhaitait que la puissance publique agisse pour contraindre l'entreprise californienne à adopter des pratiques plus vertueuses. Il demande ainsi au pouvoir public de jouer un rôle plus actif dans la régulation d'Internet, estimant que plus d'États devraient s'inspirer du règlement européen de protection des données qui prévoit des amendes pour les entreprises ne respectant pas la vie privée des utilisateurs. Après les différentes mises en cause de son entreprise, Mark Zuckerberg semble donc réagir par cet exercice de contrition publique en actant l'impossibilité pour les acteurs privés de changer sans y être obligés.
Too shy to say, send me a
envoie-moi un mail qui dit je t'aime, chante les Pet Shop Boys au tout début des années 2000. Merci beaucoup Gaspard Koenig, Gilles Raveau et Alain Laurent de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Demain, on se demandera à qui profite vraiment la loi mobilité. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.